Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Au fil des pages. Cette année, celui qui révolutionna notre regard sur l'homme, la culture, les primitifs, Claude Lévi-Strauss, entre dans la Pléiade. Il va avoir 100 ans, c'est un événement. Non seulement parce qu'il obtient le privilège de la panthéonisation littéraire in vivo, mais aussi parce que l'anthropologie y est reconnue comme littérature. Le volume réunit 7 ouvrages choisis par Claude Lévi-Strauss lui-même, ouvrages publiés entre 1955 et 1993. On y trouve en premier Triste Tropique et en tout dernier Regarder, Écouter, Lire. Alors pour nous en parler, je reçois Vincent Debanne, professeur à l'Université Columbia à New York. Il a préfacé le volume qui met à l'honneur Lévi-Strauss. Monsieur Debanne, bonjour.
Bonjour.
Vous dites dans la préface à propos de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, on avait oublié que l'anthropologue est aussi et d'abord un écrivain.
Oui, alors aussi et d'abord, je ne sais pas, mais disons que dans le cas de Lévi-Strauss, c'est quelque chose qui se vérifie. C'est-à-dire que Lévi-Strauss est à la fois quelqu'un qui mène de front les deux projets, si vous voulez. C'est quelqu'un qui ne renonce jamais à la rigueur scientifique, à la rationalité, à la nécessité, disons, de penser rationnellement, et en même temps, quelqu'un qui a un souci extrême de la phrase, de la prose, du style. Et c'est aussi quelqu'un qui est très préoccupé de littérature en général. Il a fréquenté beaucoup, lui-même beaucoup d'écrivains, c'était un grand ami d'André Breton, de Michel Léris. Donc c'est quelqu'un qui a des rapports à la fois personnels, disons, avec les écrivains, un goût d'amateur pour la littérature et aussi quelqu'un qui écrit magnifiquement. Tout simplement, c'est quelqu'un qui est imprégné de modèles littéraires qui sont par exemple Chateaubriand, Proust. C'est d'ailleurs ça, je pense, enfin pour lui, pour Claude Lévi-Strauss lui-même, je pense, le sens principal de l'entrée en Pléiade, ou ce qui lui fait le plus plaisir dans cette collection, c'est surtout qu'il se retrouve avec des écrivains qui ont été un peu ses interlocuteurs imaginaires. Il se retrouve aux côtés d'André Breton, aux côtés de Jean-Jacques Rousseau, de Montaigne, Chateaubriand et Proust. Et, voilà, je ne sais pas s'il est très sensible à la panthéonisation de son vivant. Bon, tout ça le fait un peu sourire, mais en tout cas, le fait de rejoindre comme ça ces grands écrivains, ça le touche beaucoup. Ça.
Alors revenons au volume en lui-même. Comment vous avez choisi les titres? Qu'est-ce qui vous a influencé?
Les titres, comme vous l'avez dit, c'est d'abord Lévi-Strauss qui les a choisis. Alors comment il les a choisis ou pourquoi il a choisi cela en particulier? Bon, j'essaie d'en rendre compte dans ma préface. C'est une question pas évidente en fait, parce que c'est pas forcément les titres qu'on aurait attendus. Alors bien sûr, il y a Triste Tropique, bien sûr, il y a La Pensée Sauvage, mais il y a aussi des ouvrages un peu tardifs qui datent essentiellement des années 70, 80, La Voix des Masques, La Potière Jalouse, Histoire de Lynx. Et pourquoi est-ce que Lévi-Strauss a choisi cela en particulier? Sans doute pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il doit sans doute considérer que ce sont les plus significatifs aujourd'hui. Ce sont aussi en un sens les plus accessibles, c'est-à-dire qu'on n'y trouve pas, on ne trouve pas dans ce volume les structures élémentaires de la parenté ou les quatre gros volumes des mythologies qui sont des ouvrages anthropologiques durs, si vous voulez, qui sont techniques, scientifiques et difficiles d'accès. Et alors l'autre possibilité, ce qu'on aurait peut-être pu attendre de la part de Lévi-Strauss, ça aurait été que plutôt que prendre La Voix des Masques, Histoire de Lynx ou La Potière Jalouse, ils prennent les conférences, les anthropologies structurales, les recueils d'articles plus grand public ou alors les articles importants parce qu'ils ont eu des échos dans toutes sortes de disciplines, pour la philosophie, pour le cinéma, je ne sais pas, la critique littéraire, les articles des anthropologies structurales essentiellement qui ont été lus par Barthes, par Deleuze, par Lacan, etc. Et en fait, Lévi-Strauss n'a pas choisi ça. D'abord parce qu'il ne voulait pas donner une collection d'articles, il trouvait que ça donnait un effet de dispersion qui était un peu malvenu, enfin qui rendait pas vraiment justice à l'œuvre. Et aussi, je pense que si on réfléchit, ce qu'ont en commun les 7 ouvrages qu'il a retenus, c'est des ouvrages où la matière ethnographique, c'est-à-dire les données sur les rites, les mythes, les façons de faire, les façons de manger des Indiens, dans ces 7 ouvrages, toutes ces données ethnographiques sont très présentes. Et il y a de la part de Lévi-Strauss la volonté de tenir un peu les deux bouts, si vous voulez, c'est-à-dire de choisir des ouvrages relativement accessibles et en même temps sans vraiment renoncer à la pensée anthropologique proprement dite. Donc c'est un peu ça. Pourquoi ces textes-là? Il faut essayer de réfléchir par rapport au volume possible, en fait. Il y avait un volume possible qui était un volume, les grands textes savants. Dans la Pléiade, c'était pas vraiment possible. Les structures élémentaires de la parenté, c'était trop compliqué. Ou alors, il y avait ce volume un peu qui aurait retenu tous les... encore une fois, tous ces grands textes, toutes ces conférences un peu grand public que Lévi-Strauss a données. Et Lévi-Strauss n'a pas voulu faire ça non plus. Donc, enfin, c'est pour ça que je pense que ce volume est très intéressant, parce que, à la différence de très nombreux Pléiades qui s'intitulent de la même façon œuvres, qui correspondent à une sélection d'œuvres, c'est l'auteur qui a choisi les œuvres. En général, dans les volumes Pléiades de ce type, il y a une sélection qui est proposée, qui est faite par des spécialistes, par les éditeurs. Et ce sont les éditeurs qui décident ce qui doit être retenu, ce qui doit être mis de côté, etc. Et là, ce n'est pas le cas, en fait. Donc là, on a une sorte de cas un peu hybride, un peu nouveau, où c'est la marque de l'auteur est sur le volume de la Pléiade est très importante.
Pourquoi choisit-il Triste Tropique en premier, l'ouvrage le moins académique ?
Parce qu'en fait, il a un rapport ambigu, Lévi-Strauss, à ce livre. Il a beaucoup critiqué, il a expliqué qu'il avait écrit trop vite, qu'il avait écrit dans un sentiment de culpabilité, parce qu'en fait, il cédait à... Enfin, il renonçait à la science. Il avait le sentiment de pécher contre la science, d'abandonner son travail. Donc, il a beaucoup dit ça. D'un autre côté, je pense que c'est un livre auquel il tient, malgré tout, comme le prouve son intégration au volume. C'est aussi un livre littéraire, malgré tout. Je pense que c'est une bonne voie d'entrée dans Lévi-Strauss. Et puis, c'est tout simplement un livre à la jonction entre les confessions, si vous voulez, et le travail ethnographique. C'est quand même le seul livre où Lévi-Strauss parle réellement de ses propres enquêtes, pas seulement de ses enquêtes, aussi de l'effet de ses enquêtes, c'est-à-dire du choc mental qu'a été pour lui la rencontre avec les Indiens. En ce sens, c'est une très bonne porte d'entrée dans l'œuvre de Lévi-Strauss, parce que c'est évidemment l'œuvre la plus personnelle, et c'est une bonne façon de commencer, si vous voulez. On voit comment il en est venu à étudier les mythes et les rites. Il a commencé tout simplement par des enquêtes de terrain. Voilà, alors Triste Tropique, ce n'est pas simplement un récit de terrain, c'est aussi la remémoration d'une expérience de terrain. C'est-à-dire Triste Tropique est écrit en 1955, alors qu'en fait les enquêtes datent des années 35-39. Donc pour Lévi-Strauss, Triste Tropique, c'est d'abord une réorganisation de l'expérience passée. Et c'est pour ça que le livre est si important, en fait. Parce que Lévi-Strauss, sur le terrain, finalement, n'est pas très content de ce qui se passe. Il est assez déçu, c'est pour ça que les tropiques sont tristes, parce qu'en fait, on n'entre pas en contact avec les Indiens. Enfin, on ne comprend pas les Indiens en étant en leur présence. On comprend après coup, quand on analyse ce qui s'est passé. Et c'est ça qui donne le caractère un peu inaugural à Triste Tropique, si vous voulez. C'est que c'est à la fois une prise de distance avec le passé, c'est à la fois la mise au point d'une méthode qui va être ensuite appliquée, bon, dans des ouvrages comme La pensée sauvage. Triste Tropique, c'est d'abord une sorte de travail sur soi, où Lévi-Strauss découvre en lui-même la pensée sauvage à l'œuvre, en quelque sorte. À plein d'égards, le Triste Tropique est une sorte de matrice, en fait, pour l'œuvre qui va suivre.
Comment s'est passée votre collaboration avec M. Lévi-Strauss ? Vous l'avez beaucoup rencontré, j'imagine, pour travailler votre préface, pour mettre en place la Pléiade.
Oui, bien sûr, j'ai passé beaucoup d'après-midi chez lui. Ça s'est très bien passé. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. Il a été extrêmement, extrêmement bienveillant, d'abord, et aussi très libéral. Lévi-Strauss n'est pas le premier à entrer dans la Pléiade de son vivant, mais c'est souvent un problème qui se pose. C'est-à-dire que quand un auteur entre de son vivant dans cette collection, il peut vouloir garder la main mise, éviter que certaines informations filtrent, ne pas donner accès à ses brouillons, etc. Et Claude Lévi-Strauss, lui, n'a pas du tout réagi comme ça. Au contraire, en fait, il a toujours regardé notre travail. Parce qu'on est quatre à avoir travaillé là-dessus. Il y a aussi Frédéric Keck, qui est philosophe, Marie Mosé, qui est anthropologue, et Martin Rueff, qui est spécialiste de littérature. Donc, en fait, il a toujours regardé notre travail d'un œil très, très bienveillant, et il a vraiment été très, très disponible pour répondre à nos questions innombrables. Voilà, il savait, bon, et plus personnellement, ça avait un côté un petit peu romanesque de travailler chez Lévi-Strauss. Il nous a donné... Enfin, moi, je me suis occupé vraiment de Triste Tropique, donc j'ai eu accès à ses carnets de terrain, ce qu'il n'avait jamais montré ou jamais divulgué. Donc, j'étais très... Ouais, j'étais un peu ému la première fois qu'il m'a sorti son fichier avec toutes ses notes, ses dessins, les partitions, parce que les carnets de Lévi-Strauss sur le terrain, c'est fascinant en fait. On voit que c'est quelqu'un qui était complètement débordé par la profusion de l'expérience, et donc il prend des, il dessine, il note d'oreille la musique des Nambikwara, des Bororo, et donc j'étais, oui, c'était. Ouais, c'était une expérience émouvante, en fait, de travailler. Il était à côté, dans son bureau.
Vous voulez dire, ces carnets, ils structurent. Tout de quelle façon?
Alors, en fait, justement, en fait, c'est ça qui est frappant, c'est que initialement, il avait commencé par tenir un journal d'enquête, et puis très vite, il abandonne, et c'est pas du tout structuré, en fait. Alors que Lévi-Strauss, c'est le penseur de la structure, mais c'est très important, je pense, parce que c'est à l'époque, bon, Lévi-Strauss, c'est quelqu'un qui a un petit peu connu Marcel Mauss, qui suivait son enseignement, et Mauss disait sur le terrain, faites bien attention, tenez un journal rigoureux, avec des fiches en deux exemplaires pour chaque objet, etc., etc. Et Lévi-Strauss fait pas du tout ça. On a l'impression qu'il est vraiment qu'il est débordé par une expérience qui le, comment dire, extrêmement...
Qu'il transcende ?
Oui, qu'il le transcende, je ne sais pas, mais qui le déborde un peu, une expérience qui le touche par tous les sens, en quelque sorte. Et donc, ce qui est vraiment frappant, c'est que Lévi-Strauss, on l'a beaucoup accusé d'être excessivement théorique, d'être excessivement abstrait, mais quand on regarde ses carnets, c'est pas du tout con, c'est pas du tout vérifié. C'est quelqu'un qui a une sorte de passion pour le donné concret, pour la façon dont les Nambiquaras font leurs flèches, dont ils font leur poison. Il dessine un accouchement, par exemple, auquel il a assisté. Encore une fois, il y a toutes les musiques, enfin toutes les partitions, de très nombreux dessins, des lexiques, des notes de vocabulaire. C'est dans un désordre incroyable et en même temps c'est fascinant de se plonger là-dedans.
Donc il développe tous les détails.
Oui, alors il note tous les détails, il note tout. Enfin tout, c'est difficile à dire, mais...
Sur le plan musical, sur le plan esthétique, sur le comportement.
Le comportement, donc les rites bien sûr, mais aussi, il y a aussi les animaux, quel type d'animaux domestiques on trouve, les distinctions entre des espèces d'animaux très proches. Il est extrêmement attentif dans ses carnets aux détails pratiques, aux détails concrets.
Comment est-ce qu'il vit cette entrée dans la Pléiade ?
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. La réception un peu médiatique, le grand penseur du siècle, le dernier des géants, etc., etc., ça ne l'intéresse pas tellement, en fait. Il est un peu détaché de tout ça. À la limite, ça l'ennuie. Mais d'un autre côté, je pense qu'il est sensible, encore une fois, d'une part, au fait qu'il se retrouve en compagnie de ses grands interlocuteurs, si vous voulez, Montaigne et Rousseau, etc. Et d'autre part, il est sensible au travail qu'on a fait, si vous voulez. Il est content que la vérité historique puisse être établie quand on a pu le faire. C'est un honneur, malgré tout, d'être... Il est sensible à l'honneur qu'on lui fait, pas nous comme éditeurs, mais que, culturellement, l'entrée dans la Pléiade constitue.
En quoi ce volume représente-t-il un itinéraire personnel et savant ?
Parce que d'abord, c'est chronologique. Ça commence en 1955, ça finit en 1993, comme vous l'avez rappelé. 1993, c'est le dernier ouvrage qu'il a publié. On peut saisir, en fait, son évolution. Alors, son évolution, c'est beaucoup dire, parce que Lévi-Strauss, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup évolué après 1955. Il a évolué, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que sa pensée, elle est quand même relativement mûre et en place à cette époque-là. Et donc, on voit, en fait, l'itinéraire personnel et savant, c'est l'itinéraire de quelqu'un qui... dont la pensée embrasse des objets de plus en plus variés. C'est-à-dire que la pensée elle-même ne change pas vraiment. Les intuitions fondamentales restent les mêmes. Le souci de découvrir les règles sous-jacentes, sous les conduites, sous l'échange, dans les mythes, etc. Ce souci-là ne disparaît pas, il reste le même, mais il embrasse des objets de plus en plus variés. C'est-à-dire qu'au départ, c'est simplement les populations auprès desquelles il a travaillé. Ensuite, ça s'étend à d'autres populations. Et puis ensuite, les mythes, et puis ensuite les masques. Parce qu'il s'aperçoit qu'en fait les masques sont passibles du même type d'analyse que les mythes. Et puis ensuite, l'art savant occidental. Dans ce livre de 1993, Regardez, écoutez, lire, il étudie ses peintres et ses musiciens préférés. Et donc on a l'impression d'une pensée qui prend de l'ampleur, qui reste très fidèle à elle-même, mais qui en même temps est capable d'embrasser des objets de plus en plus variés. Et en ce sens-là, il y a un itinéraire, si vous voulez. Il y a un itinéraire depuis, disons, les Bororo et les Nambiquara des années 30 jusqu'à Poussin, Rameau, mais aussi l'art Kwakiut, l'art Tsimshian, l'art de la côte nord-ouest, etc. En passant par les masques, les mythes.
Merci beaucoup, monsieur Deban, d'avoir été avec nous le temps de ce Au fil des pages. Je
Merci
rappelle
à vous.
Que vous êtes professeur donc à l'Université Columbia à New York. Et n'hésitez pas à écouter cette émission sur canalacademy.com ou à la télécharger.